une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour et bienvenue dans une semaine d'actualité. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque samedi, nous allons revenir avec la rédaction sur 7 jours d'information. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Et puis, je vous rappelle ce message pour les émissions des deux semaines à venir. Dites-nous ce qui vous a marqué en 2014, un événement, une personnalité. Écrivez-nous par courriel ou à la page Facebook d'une semaine d'actualité. Cette semaine, notre invité est universitaire, professeur à l'Institut français de géopolitique au sein de l'Université Paris 8. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Bonjour.
Votre actualité est la parution du livre Boko Haram, publié chez l'éditeur américain Tsehai Book News à Los Angeles. Une longue enquête sur cette secte devenue au fil du temps un groupe armé radical. Le sous-titre de l'ouvrage est d'ailleurs l'expression de l'exhaustivité de votre travail et aussi celui des autres signataires, car vous explorer visiblement tous les aspects des rapports entre Boko Haram et le Nigeria qui l'abrite.
Oui, c'est un travail collectif qui associe donc des chercheurs français, mais également nigérians, allemands, britanniques. Donc on étudie différents aspects de la question, pas tous malheureusement. On a des limites, notamment qui tiennent au terrain, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous avons fait du terrain dans le Borno, mais aujourd'hui les conditions de sécurité sont telles qu'on a vraiment du mal à accéder. Alors, on arrive encore un petit peu, enfin pour ma part par exemple, à aller sur les frontières pour faire des entretiens avec les réfugiés qui fuient vers le Niger ou le Cameroun, mais ça reste extrêmement compliqué. Mais on a effectivement cette valeur ajoutée, parce que souvent on raisonne sur Boko Haram un peu ex nihilo, dans l'abstrait, sans qu'il y ait forcément la dimension empirique de l'enquête de terrain qui est vraiment absolument nécessaire. Donc là, je ne peux que recommander aussi dans cet ouvrage le chapitre de mon collègue Karim Mohamed, qui est responsable de l'université de l'Adamawa, un des trois états qui est sous état d'urgence aujourd'hui au Nigeria, parce que touché par la crise de Boko Haram, et qui est vraiment pour moi un des plus fins connaisseurs de la secte, hein, y compris dans sa genèse, parce qu'elle n'a pas toujours porté ce nom de Boko Haram, qui n'est d'ailleurs même pas son nom. Donc ça vous en dit long sur le mystère qui entoure ce groupe.
Un groupe qui est passé du statut de secte, finalement, à un groupe radical reconnu.
Voilà, un groupe terroriste désigné comme tel par les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et même les Nations Unies. Hein, il fait partie de la blacklist des groupes terroristes, au même titre que d'autres, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. Alors attention à ne pas tous les mettre dans le même panier, parce qu'effectivement, la genèse de Boko Haram est quand même très local, c'est très différent d'autres groupes djihadistes qui combattent à travers le monde au Pakistan ou bien autrefois en Algérie ou même encore en Libye. Donc c'est bien au départ une secte, donc ça veut dire que c'est pas que un groupe de terroristes avec des combattants masculins, il y a bien des femmes, des enfants, et il y a une forme d'organisation qu'il est assez difficile de pénétrer en fait.
Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Dans quelques instants, nous parlerons du Pakistan et aussi de l'Australie. Il s'est passé bien des choses cette semaine dans ces deux pays. Avant cela, ces mots de Raoul Castro qui remercie le pape François et le président américain Barack Obama après la décision de ce dernier de rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba 53 ans après leur rupture.
La décision du président Obama mérite le respect et la reconnaissance de notre peuple. J'aimerais remercier le Vatican pour son soutien et notamment le pape François pour avoir contribué à améliorer les relations entre Cuba et les États-Unis. J'exhorte le gouvernement américain à lever les obstacles qui empêchent le développement des liens entre nos deux peuples et les familles et les citoyens de nos deux pays. Nous devons apprendre l'art de cohabiter ensemble d'une manière civilisée tout en respectant nos différences.
Vous écoutez une semaine d'actualité. Au Pakistan, la ville de Peshawar est en deuil après le massacre perpétré mardi par un commando taliban lourdement armé contre une école pour enfants de militaires. Le dernier bilan est de 141 morts, dont 132 écoliers, ainsi que de nombreux blessés. Les 6 assaillants sont passés de classe en classe et ont mitraillé tout le monde de façon systématique. Ils ont été tués lors de l'assaut donné par la police. Selon notre correspondante Gaëlle Lucia Berdou, qui était en direct mardi en soirée, il s'agirait d'une action de représailles contre l'armée pakistanaise.
Les talibans pakistanais ont revendiqué cette attaque qu'ils disent avoir lancée en guise de représailles contre l'opération Zarb et Asb. Le sabre du prophète, c'est l'opération militaire lancée il y a déjà plusieurs mois, en juin dernier, dans les zones tribales du nord-ouest du pays, au nord-Waziristan, région qui est le repère des rebelles islamistes, des talibans et de leurs alliés aussi. L'opération, selon l'armée pakistanaise, a déjà tué plus de 1600 rebelles dans des combats terrestres, dans des raids aériens aussi. C'est donc contre cette opération qu'en a le TTP qui le pousse dans ses derniers retranchements. Mais le TTP semble vouloir faire une démonstration, montrer que malgré cette opération militaire, il est encore en mesure de mener des attaques d'envergure. Le mois dernier, déjà début novembre, une attaque à la frontière pakistano-indienne lors d'une cérémonie militaire avait fait plus d'une cinquantaine de morts. Le TTP, les talibans pakistanais avaient revendiqué également cette attaque. Aujourd'hui, c'est la pire attaque, l'attaque la plus sanglante depuis plus d'un an au Pakistan, attaque qui a suscité de vives condamnations, une véritable tragédie nationale, a dit le Premier ministre Nawaz Sharif.
Alors certes, les talibans ont revendiqué cette action meurtrière, mais de quel taliban s'agit-il ? Le chercheur et spécialiste du Pakistan, Jean-Luc Racine, se pose la question.
Il y a eu des scissions au sein du mouvement des talibans pakistanais. Et donc, au-delà de ce que le porte-parole a annoncé, à savoir c'est une attaque de représailles contre les forces armées, ça me paraît important d'attendre un peu pour savoir qui est finalement derrière ce massacre. Viser une école avec les enfants, on a changé de format en quelque sorte. Est-ce que ce sont des groupes qui ont une certaine affinité avec l'État islamique ? Pour le moment, c'est trop tôt de le dire, mais au moins on peut se poser la question.
En tout cas, les réactions ont été unanimes à travers le monde. Condamnation totale de cet acte de barbarie extrême. Une prise d'otage dans un café en plein Sydney, la grande ville australienne. Un homme seul se revendiquant de l'organisation de l'État islamique a retenu lundi une trentaine de personnes sous la menace d'une arme et avec des revendications plutôt fluctuantes. À l'issue de 16 longues heures, la police a donné l'assaut, causant la mort du preneur d'otage qui avait auparavant abattu deux de ses victimes. Caroline Tex à Sydney.
L'Australie a découvert au réveil que la prise d'otages s'était achevée dans le sang quelques heures plus tôt. Le pays habituellement si paisible est sous le choc. Des milliers de personnes ont afflué vers Martin Place. Les Australiens sont venus se recueillir, signer des livres de condoléances. Il y a des centaines de bouquets de fleurs déposés par terre, non loin du Lynn Café. À propos de la prise d'otages, il reste encore de nombreux points à éclaircir. Elle a duré 16 heures et pendant tout ce temps, la situation a été confuse, marquée par un blackout des autorités. Elles ont refusé de donner des informations sur le nombre d'otages, sur le profil du ravisseur. Le Premier ministre Tony Abbott a évité au maximum d'employer des mots comme terrorisme. Il a préféré parler d'incident. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Tout d'abord sur les deux victimes. Comment sont-elles mortes ? À cause des tirs de la police ou du ravisseur ? On ne le sait pas. Une enquête a été ouverte. De même, que s'est-il passé pendant les 16 longues heures de la prise d'otage ? Dans quelles conditions ont été retenues les 17 personnes ? Autant de points qui restent à éclaircir.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, cette prise d'otage en Australie paraît être un acte isolé. Il en rappelle d'autres, ceux de Mohamed Merah à Toulouse ou de Mehdi Nemouche à Bruxelles. Est-ce qu'il faut craindre une dérive de ce type dans les pays non islamiques ?
C'est déjà un phénomène qui est assez bien identifié dans plusieurs pays occidentaux, effectivement, soit avec des attentats commis sur le sol même du pays de résidence du terroriste, soit aussi avec un engagement sur d'autres fronts du djihad. Alors ça peut être depuis la France vers la Syrie, depuis les États-Unis vers la Somalie, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène du homegrown terrorist, donc d'une auto-radicalisation qui ne révèle pas forcément, d'ailleurs, en tout cas au départ, l'existence d'une sorte d'international islamiste, mais qui en revanche, effectivement, fait que vous avez une main d'œuvre qui finit par se joindre soit alors dans des actes isolés de terrorisme sur le territoire de résidence, soit effectivement en joignant des groupes armés qui eux sont beaucoup plus organisés sur les différents fronts du djihad aujourd'hui.
Alors on s'interroge également sur l'identité exacte du groupe de talibans qui a réalisé le massacre de Peshawar. On a bien entendu Jean-Luc Racine, le spécialiste. Alors finalement, comme Al-Qaïda et l'organisation État islamique qui se sont un peu séparés, les talibans sont-ils l'objet de sécession généralement mouvement de plus en plus radical.
Alors, beaucoup de ces phénomènes djihadistes, en fait, opposent d'abord des musulmans entre eux, hein, contrairement à la représentation qu'on peut s'en faire, et ça vaut aussi pour Boko Haram, qui tue, rappelons-le aussi, hein, beaucoup d'écoliers, de collégiennes qu'ils ont enlevés. Encore récemment, hein, il y a eu un enlèvement de masse de jeunes filles, il y a aussi des jeunes garçons par le groupe Boko Haram. Alors, je crois que ce qui est très important aussi, c'est de comprendre, parce que souvent, on ramène tous ces groupes terroristes à une dimension purement criminelle, alors ils vont faire du kidnapping pour avoir des rançons, etc. Je crois qu'il faut quand même comprendre qu'il y a derrière, sous-jacent, quand même des questions de doctrine. Et il y a un point vraiment fondamental, c'est de voir comment des groupes fondamentalistes musulmans non seulement optent pour la lutte armée, mais vont justifier justement le fait de massacrer d'autres musulmans, d'attaquer d'autres musulmans, ou bien de commettre des attentats suicides, alors que le Coran prohibe le suicide. Donc là-dessus, ce qu'on voit généralement poindre comme phénomène récurrent, c'est le phénomène de l'excommunication. C'est-à-dire de prétendre que les autres musulmans qui ne suivent pas la voie que vous prenez ne sont plus des musulmans, tout simplement. Et que donc, à ce moment-là, ils rentrent effectivement, ils sont en dehors du Dar al-Islam, donc ils sont, ils peuvent être assassinés, torturés, enlevés, kidnappés. Il n'y a plus aucune tabou religieux à ce sujet.
Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve sur tous les champs où se produisent ces groupes islamistes radicaux.
Alors, d'une certaine manière, oui, puisque, rappelons-le, ces phénomènes de djihad, en tout cas, je ne parle pas là de l'acte terroriste isolé, mais bien de champs de bataille où il existe des groupes armés organisés, où effectivement, on voit que ces batailles opposent essentiellement des musulmans entre eux. Alors, sur le cas de l'Irak, on présente ça peut-être d'ailleurs de manière un peu rapide comme une opposition entre sunnites et chiites, mais très souvent, ce sont des oppositions au sein même du monde sunnite. Hein. Boko Haram contre un groupe fondamentaliste qu'on appelle les Izalas, et donc ces talibans où il y a effectivement différentes factions qui peuvent aboutir à des rivalités meurtrières au sein même de ce qui était au départ une organisation.
Une semaine d'actualité.
Rapprochement historique entre les États-Unis et son vieil ennemi, Cuba. Cela faisait 53 ans que les deux pays n'avaient plus de relations diplomatiques. Une rupture en 1961 qui s'était accompagnée d'un embargo économique décrété par le président démocrate John Kennedy 2 ans plus tard. Et c'est un président démocrate, Barack Obama, qui choisit de rétablir ses relations.
Todos somos americanos.
Nous sommes tous des Américains.
Change is hard.
Le changement est difficile dans nos propres vies et dans la vie des nations. Et le changement est encore plus difficile lorsque l'on porte le lourd poids de l'histoire sur ses épaules. Mais aujourd'hui, nous réalisons le changement car c'est le juste choix à faire. Aujourd'hui, les Américains ont décidé de se défaire des entraves du passé afin d'atteindre un meilleur avenir. Pour le peuple cubain, pour le peuple américain, pour l'hémisphère tout entier et pour le monde.
Et dans la communauté cubaine aux États-Unis, les réactions sont plutôt mitigées. Les plus âgés sont contre, les plus jeunes sont pour. Ailleurs dans le monde, l'annonce simultanée de Washington et de La Havane est accueillie avec satisfaction et beaucoup d'espoir, car c'est un vieux conflit qui pourrait bien disparaître prochainement.
Sept jours dans le monde.
Est-ce la chute de la maison Russie ? En tout cas, le rouble n'en finit plus de dégringoler, la faute aux sanctions internationales en rapport avec l'Ukraine, mais aussi à la chute des prix du pétrole et du gaz. Du coup, les Russes se mettent à dépenser plus, ce que confirme Muriel Pomponne depuis Moscou.
Tout est vendu. C'est la réponse que l'on obtient chez Toyota ou chez Volkswagen quand on téléphone pour acheter une voiture. Face à la chute du rouble, les Russes préfèrent investir leurs économies dans l'achat d'un véhicule plutôt que de les conserver à la banque. Pour enrayer ce crash, la Banque centrale a relevé son taux directeur à 17%. Une bonne mesure pour Sergueï Ulatov de la Banque mondiale, mais trop tardive.
En fait, la Banque centrale est en train de prendre les mesures que tout le monde espérait un peu plus tôt. Nous nous attendions à ce que la Banque relève son taux directeur lors de sa réunion du 11 décembre, mais au grand regret des analystes, elle ne l'a pas augmenté de façon suffisante et elle n'a pas réussi à stabiliser les marchés. Donc maintenant, la Banque de Russie est en train de rattraper ses erreurs. Mais il y a d'autres d'autres facteurs qui entrent en jeu et qu'il faut prendre en compte. La Banque centrale sera donc amenée à prendre d'autres mesures, mais il faut attendre un peu.
Le milieu des affaires n'a plus confiance. D'après le journaliste Vestia, l'association des entrepreneurs russes voudrait la légalisation des prix en unités conventionnelles. Unité conventionnelle, ça veut dire dollars ou euros. Une mesure que les autorités refusent officiellement d'envisager. Mais certains, comme Ruslan Greenberg, directeur de l'Institut d'économie à l'Académie des sciences, estiment que la Russie est effectivement en train de retourner à la dollarisation.
Et jeudi soir, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine est apparu démuni face aux questions des journalistes. Il a d'ailleurs rapidement changé de sujet sans avancer de propositions concrètes pour redresser la situation économique et financière du pays. Ceux qui attendaient un changement de Premier ministre en ont été pour leurs frais. Le pouvoir turc se fâche contre l'Europe après la vague d'arrestations dimanche de journalistes de quotidiens et hebdomadaires d'opposition, ainsi que de policiers qualifiés d'ennemis de la nation. L'Union européenne avait exprimé lundi son mécontentement en estimant que ces arrestations étaient contraires aux valeurs de l'Europe. La réponse du président Erdogan s'est faite cinglante, que l'Europe se mêle de ses affaires et garde ses idées pour elle. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on sent que la Turquie s'éloigne de plus en plus de l'Europe à mesure que le pouvoir enracine la religion dans l'espace politique. Est-ce votre impression ?
J'ai du mal à me faire une impression. Il y a des signaux un peu contradictoires où il y a eu quand même, faut le rappeler, par rapport à la Turquie militarisée des années 80, de sacrés progrès sur le plan démocratique, je crois que c'est quand même indéniable. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a vraiment une radicalisation, plutôt sur le plan d'ailleurs des libertés civiques, sur l'entrée de la religion. Je crois que la religion n'a jamais disparu de toute façon de la Turquie. Oui, l'Atatürk avait essayé de mettre ça sous la coupe d'un État laïque, mais est-ce que ça avait vraiment disparu ? Non, jamais. Simplement, c'est aujourd'hui très visible, et en même temps moi ce qui me perturbe plus c'est finalement le jeu assez trouble de la Turquie relativement à la Syrie et à l'Irak et à Daesh, en sachant qu'il y a toujours cette ambivalence, c'est à la fois un pays membre de l'OTAN, et effectivement c'est un pays qui partage des intérêts communs avec d'autres États qui sont pas forcément très proches de l'Union Européenne, je pense, je sais pas, à l'Iran par exemple.
Alors comment analyser par ailleurs le réchauffement en cours entre les États-Unis et Cuba, et c'est-à-dire que ce vieux combat finalement entre le libéralisme et le communisme, c'est un combat obsolète ?
On a l'impression que, enfin on dit en tout cas que Cuba a pris la mesure de l'effondrement de l'économie vénézuélienne qui fournissait en pétrole à bas prix Cuba, et que du coup ils ont bien conscience qu'il faut plus trop compter sur une aide à la fois russe ou vénézuélienne et qu'il faut évoluer. Donc là ils entrent un peu dans une forme de modernité économique sans pour autant évidemment officiellement renoncer à leur idéologie marxiste. De toute façon, on sait, ça fait 20-30 ans que ces sanctions économiques n'ont jamais abouti à un renversement du régime. Donc, à quoi servent-elles si ce n'est à pénaliser la population ? Donc, je crois qu'il est temps de tourner la page et c'est important que ces deux pays se rapprochent.
Alors, par ailleurs, on a fait dire à André Malraux que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. C'est une phrase célèbre. Il a toujours démenti avoir jamais prononcé cette phrase. En réalité, il avait écrit qu'il craignait, lui, le non-croyant, qu'un événement spirituel ne se produise au cours de ce siècle. Est-ce qu'on est à ce moment avec l'émergence de tous ces groupes qui se revendiquent d'un islam extrémiste ?
Moi, je dirais non. Parce que je n'y vois pas un moment spirituel personnellement, mais c'est une impression de citoyen.
Religieux peut-être.
Alors, en tout cas au nom de la religion. Mais encore une fois, je crois que ça dépend aussi de nos représentations du politique, notamment sur la scène internationale. C'est-à-dire que, par exemple, après le grand moment des indépendances et de la décolonisation dans les années 50 et 60, on avait une vision de l'État comme un État en construction et un État laïque. Et donc on a eu peut-être tendance à mettre un peu sous le boisseau les aspects des interférences religieuses, qu'elles viennent du monde de la chrétienté ou de l'islam, dans l'organisation du politique. Et puis, au sortir de la guerre froide, eh bien, on n'avait plus cette espèce de paradigme d'une opposition entre l'Est et l'Ouest, entre le communisme et le libéralisme. Et donc, on a redécouvert d'autres éléments idéologiques structurants des champs politiques. Et c'est à ce moment-là que la religion est aussi apparue. Alors, en plus, il est vrai que vous avez vu les attentats de septembre 2001, vous avez vu beaucoup de choses, les fronts afghans, etc. Mais qu'on ne me fasse pas dire que du temps de la guerre froide, la religion et l'islam n'importaient pas. simplement, on a remixé ça à notre moulinette occidentale. Et donc, les moudjahidines d'Afghanistan qui luttaient contre l'armée rouge et contre les communistes, on voulait voir des combattants de la liberté. Et on oubliait qu'ils étaient aussi porteurs d'un combat fondamentaliste qui aujourd'hui apparaît beaucoup plus visible qu'il ne l'était autrefois. Donc, attention peut-être à ces effets de représentation qui fait qu'on a sans doute sous-estimé l'importance de la religion du temps de la guerre froide. Celle-ci apparaît visible très clairement aujourd'hui, mais je crois que les forces profondes, elles, en revanche, l'évolution est beaucoup plus lente, si vous voulez.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, auteur du livre Boko Haram, publié chez l'éditeur américain Zehai Book News à Los Angeles. Une immersion dans les méandres de cette secte du Nigeria devenue avec le temps un groupe islamiste armé radical qui rayonne sur le nord-est du Nigeria et déborde sur le Cameroun voisin. Nous irons d'ailleurs en Afrique dans quelques minutes.
RFI.
Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants en France. Avec la satisfaction du gouvernement après la conclusion d'un accord, même à minima, sur le climat à Lima, au Pérou. C'était dimanche dernier, il fallait qu'il y ait un accord pour que le prochain sommet, qui se tiendra à Paris à la fin 2015, soit un succès. Écoutez Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, interrogé à Lima par Agnès Rougier.
On a beaucoup avancé et sur deux ou trois points très importants qui préparent Paris. D'abord, l'établissement d'un accord mondial pour lutter contre le climat. Deuxième point, ce qu'on appelle les contributions nationales. Là, le cadre est défini qui fait que chaque pays va devoir publier sa contribution et donc on va pouvoir voir où on se situe par rapport à l'objectif des 2 degrés. Puis la troisième idée, qui est une innovation, et on va travailler avec les Péruviens là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'agenda des solutions, c'est-à-dire c'est pas simplement les gouvernements qui doivent agir, mais aussi les villes, les régions, les entreprises. Et donc, je compte bien reprendre ces trois éléments à Paris.
Il était ouvert depuis 7 ans, mais n'avait jamais été inauguré. Le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris a finalement eu les honneurs du chef de l'État lundi. François Hollande a défendu un apport des immigrés et dénoncé l'instrumentalisation des peurs liées aux étrangers. Un discours sur les valeurs, un discours également très politique. Florent Guignard.
Le sujet est sensible, potentiellement explosif. Voilà pourquoi François Hollande a préféré garder le silence pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, il reparle à ses électeurs, à la gauche et à ses valeurs. Une vision positive de l'immigration à rebours de l'air du temps. Il faut rassembler, le discours est pédagogique et consensuel. François Hollande s'adresse aux immigrés et à leurs enfants. Il s'adresse aussi aux victimes de la mondialisation tentées par le rejet de l'autre. François Hollande fait de la politique et Nicolas Sarkozy, qui fait son retour en fanfare sur le thème de l'immigration, est dans son viseur. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, on comprend que c'est d'eux qu'il s'agit, le président ne les nomme jamais, sont accusés d'instrumentaliser les peurs. Ils veulent que la France sorte de l'espace Schengen. Notre frontière, c'est Schengen, leur répond François Hollande, alors que l'Europe suscite pourtant bien de la défiance. Un discours entier consacré à l'immigration sans jamais parler d'insécurité, pour mieux se distinguer de ses deux adversaires désignés en 2017.
Une semaine d'actualité.
Le premier forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu lundi et mardi au Sénégal. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains avaient fait le déplacement à Dakar, ainsi que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Au micro de l'un de nos envoyés spéciaux, Olivier Four, ce dernier a annoncé que la France était prête à contribuer à une force militaire régionale afin de lutter contre les islamistes de Boko Haram.
Il y a là une menace grave pour à la fois l'intégrité du Nigeria, mais aussi une menace grave sur d'autres pays voisins, que ce soit le Cameroun, le Niger ou le Tchad. La position de la France est de soutenir les efforts effectués par ces quatre pays pour s'organiser entre eux afin d'être en mesure de répondre. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons la mise en place d'un comité de liaison de nature militaire entre les autorités de ces quatre pays pour aider à coordonner leur action et leur capacité de riposte. Et nous mettons à leur disposition plusieurs officiers qui seront susceptibles de les accompagner à cet égard.
Et cette annonce de la France intervient alors que l'on a appris jeudi que Boko Haram avait effectué dimanche dernier un nouveau raid spectaculaire en enlevant 185 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, et en tuant 32 autres dans un village du nord-est du Nigeria. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, ce comité de liaison militaire, est-ce une réponse appropriée à l'insécurité que connaît cette région du nord Nigeria en raison des exactions de Boko Haram?
Pas sûr. Je suis un petit peu inquiet, j'avoue, de l'internationalisation de la réponse contre Boko Haram avec les armées des pays de la région. D'abord sur le domaine de la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que l'internationalisation de la réponse peut amener une internationalisation de Boko Haram. Je suis désolé, Boko Haram ce n'est pas Al-Qaïda. En 2003, quand les Américains ont envahi l'Irak, il n'y avait pas Al-Qaïda, maintenant il y a Al-Qaïda. Donc là, il est clair que si on invite les armées de la région, en l'occurrence il s'agit du Tchad, du Cameroun et du Niger, où en fait depuis le début des années 2000 la secte a des bases arrières, sauf qu'elle ne touchait pas, elle n'attaquait pas les pays voisins tant qu'on ne l'attaquait pas. Si on les amène ces pays voisins à attaquer Boko Haram, alors on le sait, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire dans le nord du Cameroun, c'est qu'il y a une extension du champ opérationnel de Boko Haram. Donc c'est pas Boko Haram qui s'internationalise, c'est l'internationalisation de la Boko Haram qui amène une internationalisation de la réponse. Et puis l'autre chose qui est quand même un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui au Nigeria, le président Goodluck Jonathan ne contrôle pas l'état-major, qui lui-même ne contrôle pas la base. Donc quand on veut faire concerter les armées de la région avec le Nigeria, avec qui parle-t-on au Nigeria? Il y a un vrai problème. Et les dysfonctionnements de l'armée sont vraiment notoires. Donc on ne gagne pas une guerre asymétrique en massacrant les civils, ça c'est clair. Donc là, j'ai quand même de très grosses inquiétudes sur en fait un signal diplomatique, le body language si on va dire, de nos dirigeants qui consiste effectivement à non seulement internationaliser la réponse, mais aussi la militariser. Alors pour l'instant, plus on a militarisé la réponse, plus toute cette histoire est partie de mal en pis. Donc soyons raisonnés et raisonnables dans ce que l'on peut vraiment faire avec le Nigeria.
Cela dit, l'internationalisation, elle existe puisque les pays voisins du Nigeria sont touchés. Est-ce que d'ailleurs Boko Haram est très très présente dans ces pays voisins, notamment le Cameroun?
Alors c'est sur des régions très particulières, le nord du Cameroun, la région de Diffa au nord-est du Nigeria, la région frontalière vers le lac Tchad en fait. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que vous appelez internationalisation, mais comme ils ont des bases arrières dans ces pays-là depuis le début des années 2000, on peut dire qu'ils sont déjà dans une région aux frontières poreuses, le Borno, au Nigeria, ils sont déjà internationaux par nature, si vous voulez. Simplement, il y avait un modus vivendi qui faisait que, avant qu'on invite les armées de la région à aller les attaquer, ils n'attaquaient pas les pays de la région. Donc aujourd'hui, on a effectivement une internationalisation programmée du champ de bataille qui oppose Boko Haram à des armées régulières, ou pas toutes d'ailleurs très régulières.
Alors, est-ce que ça ne serait pas les pays voisins qui s'inquiéteraient d'une certaine forme d'inefficacité de l'armée nigériane?
De l'armée nigériane, car aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que si Boko Haram marque des points au Nigeria, c'est parce qu'en face, il n'y a rien. Et là, en plus, on est dans le contexte d'élections présidentielles en février prochain, qui fait que Abuja, à la capitale, on est surtout préoccupé par la réélection du président sortant, Goodluck Jonathan, et pas dans le combat militaire contre cette région où il n'y a d'ailleurs pas d'intérêt économique, qu'est le Borno. Donc là, aujourd'hui, c'est très simple. Les officiers militaires de l'armée du Niger expliquent que quand ils appellent leurs homologues à l'état-major à Abuja, il n'y a personne au bout du fil. Et l'image est très belle. Avec qui voulez-vous coopérer au Nigeria? Il n'y a personne au bout du fil aujourd'hui.
Alors, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale est particulièrement inquiet, on le comprend. Abdoulaye Batili a d'ailleurs présenté un rapport sur ce sujet la semaine dernière au Conseil de sécurité. Il s'en explique au micro de Laurent Corot. Écoutez.
Boko Haram opère comme un cancer. Au courant du mois d'octobre, le bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale que je dirige a initié une mission au nord Cameroun. La situation humanitaire est catastrophique. La situation économique s'est aggravée parce que il y a un commerce important entre le Nigeria et le Cameroun qui est aujourd'hui complètement annihilé du fait de l'insécurité. Mais également, il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qui sont recrutés tant du côté nigérien que du côté camerounais. Aujourd'hui, le Nord Cameroun est dans une situation sécuritaire particulièrement catastrophique. Et cette situation, si on n'y prend garde, risque de s'étendre à l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Et Boko Haram veut maintenant conquérir des territoires. Donc c'est un danger réel. Et malheureusement, ce groupe est équipé à un niveau tel qu'aucune armée de cette sous-région, prise toute seule, ne peuvent résister au phénomène de Boko Haram tel qu'on le voit aujourd'hui.
En entendant Abdoulaye Batili, on a l'impression que c'est la vie sociale de toute cette région qui est déstabilisée. Alors c'est vraiment comme ça que ça se passe, les recrutements, les incitations à collaborer, les empêchements de faire du commerce?
Dans le nord du Cameroun, je dirais que oui, la situation est très grave en ce moment. Dans la région de Diffa, c'est périlleux, mais c'est on n'en est pas encore à ce qui se passe dans le nord du Cameroun. Quant à N'Djamena, donc de l'autre côté du lac Tchad, là, la capitale est pour l'instant préservée par le phénomène. En revanche, c'est du côté nigérian, essentiellement dans les états du Borno, de Yobe et de la Damawa, que là, alors là, on a vraiment, on estime, les dernières estimations, mais elles valent ce qu'elles valent, hein, c'est qu'il y aurait 1,5 million de déplacés internes et plus de 100 000 réfugiés qui auraient franchi la frontière vers le Niger ou une autre partie vers le Cameroun. Donc ça prend une ampleur très importante, d'autant que ce sont des paysans qui, du coup, ne peuvent plus cultiver leurs champs. Donc se profile aussi une crise nutritionnelle qui pour l'instant n'agite pas beaucoup, je trouve, en tout cas pas assez les médias. Alors bien sûr, on n'en est pas arrivé heureusement encore au stade syrien. N'empêche, on est dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc du côté du Nigeria, les implications sont vraiment terribles.
Alors restons au Nigeria, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, puisque l'autobiographie de l'ancien président Olusegun Obasanjo, My Watch, a fait la une de plusieurs journaux cette semaine, bien qu'elle soit interdite au Nigeria. Ce texte met en cause plusieurs personnalités, dont l'actuel directeur de campagne du chef de l'État, candidat à sa réélection, Bocci Kachamou, c'est son nom, il est présenté comme un baron de la drogue, rien moins. Alors était-il opportun de sortir ce livre à 3 mois des élections présidentielles? Olusegun Obasanjo s'en explique au micro de Rosie Collier, de la rédaction anglaise de RFI.
La question de savoir si c'est le moment opportun ou favorable de publier un livre revient entièrement à l'éditeur et aussi au lecteur. J'ai mis 18 mois à écrire ce livre et je l'ai terminé il y a environ 4 mois. Je l'ai alors donné à l'éditeur et l'éditeur a décidé, après l'avoir lu, que ce serait bien de le publier avant les élections.
Qui est Burugi Kachamou et pourquoi son nom est-il mentionné dans votre autobiographie?
C'est quelqu'un qui a été inculpé aux États-Unis et qui est recherché en tant que baron de la drogue pour être jugé. C'est ce que je sais de lui. Je pense qu'il y a donc à redire sur le fait qu'un parti politique et que le président fricote avec lui. Et je le dis.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, l'opportunité politique de sortir cette autobiographie, vous en pensez quoi?
Bon, ce livre, c'est merci pour ce moment à la Obasanjo, qui fait partie du même PDP, le People's Democratic Party, que le président sortant. Hein. Donc, Goodluck Jonathan, actuellement au pouvoir, est en fait un homme issu du sérail d'Obasanjo. Hein. Mais les deux hommes, c'est de notoriété publique, s'entendent très très mal. Obasanjo n'a pas manqué de le critiquer. On avait autrefois critiqué Obasanjo lorsqu'il a effectué ses deux mandats entre 1999 et 2007 pour son autoritarisme, etc. C'était un homme qui prenait des décisions. Donc il a pu heurter effectivement certains segments de la société, mais il prenait des décisions. Le problème de Goodluck Jonathan, c'est qu'il ne prend pas de décision. Et effectivement, c'est là-dessus qu'il est critiqué. Et là, Boko Haram révèle aussi toute à la fois l'incompétence, la corruption du gouvernement, parce que vous avez aujourd'hui un budget de 5 milliards de dollars pour les forces de sécurité. C'est une proportion inégalée dans l'histoire de post-indépendance du Nigeria consacrée aux forces de sécurité dans le budget fédéral. Même du temps des dictatures militaires, il n'y avait pas autant d'argent. Or, en même temps, l'armée plie, elle recule devant Boko Haram, donc tout le monde se demande effectivement où va cet argent. Et on le sait très bien, il y a énormément de corruption, de détournement de fonds. Donc c'est aussi ça que dénonce Olusegun Obasanjo, que j'ai encore vu il y a 2 jours d'ailleurs à Dakar, puisqu'il faisait partie de ce forum international pour la sécurité. C'était d'ailleurs intéressant, parce que c'est le seul Nigérian de haut niveau qui s'est déplacé. Goodluck Jonathan, lui, n'est pas venu.
Alors justement, l'actuel président est accusé par son prédécesseur de ne pas faire grand-chose contre Boko Haram. Est-ce que c'est la la vérité et est-ce que Obasanjo, lui, avait fait quelque chose?
Alors, d'abord, la situation n'était pas aussi grave du temps d'Obasanjo. Hein. Il y a un premier basculement dans la violence de Boko Haram qui est dû à l'exécution extrajudiciaire de leur gourou, Mohamed Youssouf, en 2009. Or, Obasanjo a quitté le pouvoir en 2007. Donc, à l'époque, en fait, la situation, on traitait avec la secte. Il faut quand même rappeler que jusqu'en 2009, cette secte avait pignon sur rue à Maïdougouri, qui est leur fréaf traditionnel. Donc, on allait à la mosquée, on voyait leur leader. C'était pas un groupe terroriste. Donc, c'est cette situation-là que Obasanjo a eu à gérer. Donc, c'était beaucoup moins grave. Mais effectivement, Goodluck Jonathan, l'actuel président, est accusé non seulement de ne pas réussir à contenir les avancées de ce groupe djihadiste, mais même de le faire délibérément pour impacter sur une région qui est à dominante musulmane et qui est aux mains de l'opposition. Donc, il y a derrière aussi une accusation que finalement, c'est délibérément que le gouvernement actuel au Nigeria ne fait rien contre Boko Haram pour impacter sur le vote lors des prochaines élections présidentielles. Parce qu'il y a une vraie question. Est-ce qu'on pourra voter dans ces trois régions sous état d'urgence que sont le Yobe, la Damawa et la Damawa? Et si on peut pas, est-ce que la commission électorale pourra proclamer les résultats? Ça, c'est aussi un gros point d'interrogation. Et là, on voit comment Boko Haram s'inscrit dans un jeu politique qui est même beaucoup plus grave, au-delà même de toutes les atrocités qu'ils peuvent commettre ou des atrocités que commettent l'armée. Parce qu'il faut pas l'oublier non plus, l'armée tue énormément. Mais au-delà de ça même, si vous voulez, Boko Haram interroge l'État nigérian à la fois sur la question des élections. Est-ce qu'on pourra voter dans les régions tenues par Boko Haram? La réponse est très vraisemblablement non. Donc, est-ce qu'on pourra proclamer des résultats à l'échelle nationale alors qu'une partie du pays, une partie des citoyens n'auront pas eu le droit de voter? 1,5 million au bas mot, c'est quand même pas rien. Donc, il y a un vrai problème, là, pour les élections de février. Et puis, l'autre chose, c'est que Boko Haram, en fait, réveille les angoisses d'une nation inachevée avec notamment, de la part des chrétiens du Sud, une peur du djihad, qui renvoie d'ailleurs à l'histoire du djihad d'Ousmane Nadfogno en 1804. On n'a pas le temps de revenir là-dessus. Mais finalement, ça réveille un clivage nord-sud. Hein, un sud qui serait à dominante chrétienne et un nord à dominante musulmane, même si en fait c'est plus compliqué que ça. Et du coup, cette peur-là confessionnalise même aussi la compétition électorale. C'est-à-dire qu'on voit comment Goodluck Jonathan, qui est accusé d'être un mauvais président, incompétent, essaye d'avoir un lobby chrétien, un vote chrétien, en agitant la menace du djihad. Et donc lui-même participe de cette confessionnalisation du jeu politique au Nigeria. C'est extrêmement dangereux en s'approchant de groupes évangélistes qui sont eux, alors là, extrêmement vindicatifs. Par exemple, le fameux pasteur Ayo, qui est à la tête de la Christian Association of Nigeria, dont l'église catholique d'ailleurs s'est retirée, elle a suspendu sa participation, et il appelle les chrétiens à monter l'armée de Jésus pour aller se débarrasser une bonne fois pour toutes des parasites musulmans du Nord.
On tend vers la partition, d'une certaine façon.
Non, parce qu'il y a un énorme, il y a quand même des intérêts économiques qui prédominent sur ce pays. D'abord, les musulmans ne veulent pas d'une sécession, puisque le pétrole et l'argent se trouvent au sud, et en fait, comme le pétrole se trouve essentiellement dans 4 états sur 36 au sein de la fédération, en réalité, tous les autres états, aucun ne veut l'indépendance ou se séparer de cette richesse pétrolière. Donc le pétrole est à la fois un facteur de division et d'unité nationale.
Une semaine d'actualité.
Manifestement, l'échange de prisonniers avec les islamistes d'ACMI lors de la libération du français Serge Lazarevic ne passe pas au Mali. Et après un long silence des autorités, le président a finalement décidé de s'exprimer à la radio. Pas sûr que cela suffise, si l'on entend bien le résumé que nous fait Christine Muratet.
Dans un style inimitable, le président malien a donc cherché à rassurer ses concitoyens. La remise en liberté de 4 djihadistes n'est pas un signe de faiblesse de la part de Bamako. Que personne ne se méprenne, affirme le chef de l'État, à leur place, juste préféré rester en prison. Durant plusieurs jours, le pouvoir malien est resté aux abonnés absents sur cette affaire. Certains magistrats allant jusqu'à nier l'évidence, les djihadistes n'étaient plus dans les geôles de Bamako. Cela a provoqué l'indignation de la rue et de la société civile. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde contre un pouvoir qui, je cite, « brade son devoir de justice, sacrifie les victimes maliennes et leurs familles au bénéfice d'un otage français ». L'opposition profite de cette occasion pour dénoncer une nouvelle fois la faiblesse des autorités maliennes. Vendredi dernier, le ministre de la Justice, le premier, confirme enfin l'information. Selon Mohamed Ali Batili, c'était un devoir vis-à-vis d'un partenaire comme la France engagé depuis 2 ans aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Hier, au micro de RFI, c'est en chef des armées qu'Ibeka a promis de traquer les djihadistes et en père de la nation de rendre justice aux gardiens de prison tués lors d'une tentative d'évasion d'un des djihadistes. Une posture malaisée pour le chef de l'État malien, obligé aujourd'hui de se justifier devant son peuple d'une chose et de son contraire.
Et on a également appris cette semaine le décès d'Intala Ag Ataer, chef traditionnel des Ifogas depuis 1962 et personnalité incontournable des rébellions Touareg. Il avait près de 90 ans. De violents combats ont encore eu lieu cette semaine en Libye entre les forces armées loyales au Parlement élu et une coalition de groupes djihadistes islamistes. Depuis Tunis, d'où elle suit l'actualité libyenne, Marine Casalis nous explique que le pétrole est l'enjeu des combats.
Les affrontements entre les forces armées des deux autorités, qui se battent pour la légitimité en Libye, ont continué dimanche dans le golfe de Sirte, la grande région pétrolière, mais aussi à la frontière avec la Tunisie. Une alliance entre des forces islamistes de la ville de Misrata et des djihadistes d'Ansar Sharia des villes de Benghazi et Sirte tente de mettre la main sur les ressources en pétrole du pays. Cette nouvelle opération, dénommée Shourouk ou Levée de soleil, vise à s'emparer des terminaux d'exportation et des champs pétroliers. Samedi, les forces loyales au Parlement élu ont stoppé leur avance grâce à des bombardements aériens, mais les affrontements se sont poursuivis dimanche à proximité du terminal. Les forces loyales au Parlement élu tentent également de reprendre du terrain autour de Tripoli, contrôlé depuis cet été par l'alliance de milices Aube de la Libye. De violents combats ont eu lieu au niveau de la ville d'Abou Kamash, à quelques kilomètres de la frontière avec la Tunisie. Les deux camps déclaraient dimanche soir contrôler le poste frontière de Ras Ejdir, mais selon des sources locales, il serait toujours aux mains des hommes d'Aube de la Libye.
Ajoutons que l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme concernant la République démocratique du Congo. 184 civils ont été assassinés dans la région de Beni, au nord de la RDC depuis octobre. L'organisation demande l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour retrouver les assaillants, car ces massacres sont récurrents et restent en général impunis. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, que penser des conditions de libération de l'otage français au Mali, Serge Lazarevic? Apparemment, ça ne passe pas très bien dans le pays.
C'est un vieux débat, puisqu'il y avait déjà eu ce débat du temps de la présidence Sarkozy avec le prédécesseur de l'actuel président malien, Ibeka. À l'époque, c'était ATT, comme on l'appelait, et qui également avait été, disons, poussé par la France à libérer des prisonniers à Bamako, des djihadistes, en échange de la libération d'otages français. Donc c'est en fait un assez vieux débat. C'est pas lié à l'opération Serval en tant que telle ou la présence militaire française. On avait déjà ce problème, qui d'ailleurs renvoie à un problème beaucoup plus général, qui sort du cadre du Mali. C'est la réponse à des prises d'otages. Est-ce qu'on libère des prisonniers? Est-ce qu'on verse des rançons au risque de d'alimenter un système qui peut tourner à une sorte d'industrie du kidnapping, et puis de satisfaire les exigences des ravisseurs qui à ce moment-là peuvent être tentés de recommencer ce procédé. Donc ça dépasse largement le cadre du Mali de ce point de vue.
Alors Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on revient à votre ouvrage sur Boko Haram. Comment Boko Haram est-elle passée du statut de secte à celui de groupe armé radical aujourd'hui reconnu?
Alors, il y avait déjà des fondements radicaux dans la pensée de Boko Haram qui venait d'un mouvement, disons, d'inspiration wahhabite qu'on appelle les Izala, mais qui, lui, ce mouvement est plutôt dans une stratégie d'entrisme à l'intérieur de l'État, alors que Boko Haram et son gourou Mohamed Youssouf étaient vraiment d'une stratégie de confrontation ouverte. Mais au-delà de ça, en revanche, ils avaient pignon sur rue, donc c'était quand même une secte qui avait même un temps d'antenne à la télévision du Borno. Donc le grand basculement quand ils se sont radicalisés, c'est vraiment l'exécution extrajudiciaire, c'est la répression militaire de 2009. C'est la répression militaire de 2009 qui fait que cette secte, qui était violente dans ses propos et parfois dans ses actes, est effectivement devenue clandestine, n'ayant plus vraiment une organisation structurée comme autrefois. Donc avec qui négocier la paix aujourd'hui, c'est un vrai problème, avec des cadres qui se sont enfuis dans les pays voisins, qui sont tombés dans les griffes des djihadistes, là beaucoup plus globaux que ne l'était au départ la secte, et qui effectivement ont commencé à recourir à des attentats suicides, des tueries contre des chrétiens, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc on voit là complètement une dégénérescence de cette secte, une criminalisation, et puis l'état d'urgence en mai 2013 a encore rajouté une couche de violence. On peut dire que les exactions de l'armée sur la période 2009-2012 ont été le meilleur agent recruteur pour Boko Haram, c'est-à-dire que la population fuyait l'armée pour ne pas être tuée, et que du coup certains pouvaient rejoindre les rangs de Boko Haram, pas parce qu'ils adhéraient à l'idéologie extrémiste du groupe, mais simplement pour chercher protection.
Alors justement, quel est le champ d'intervention de Boko Haram. Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est la société?
C'est tout à la fois. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un discours, mais que l'on retrouve dans des groupes salafistes non armés, cela, qui est de dire que finalement, pour appliquer correctement la charia, la loi divine, la loi coranique, il ne faut pas avoir une constitution qui serait au-dessus de la charia et qui serait écrite par les hommes. Donc, pour eux, pour ces groupes fondamentalistes, la loi coranique, la charia, ne peut être appliquée correctement que soit dans un système de république islamique à l'iranienne, soit un califat. Et là, effectivement, Boko Haram réclame l'établissement d'un califat qui serait donc à l'échelle du Nigérien, qui renvoie au califat d'Ousmane Nfodou en 1804, hein, c'est ça un peu le modèle révolutionnaire, et donc de dire que pour appliquer correctement la charia, il faut un changement de régime politique. Et c'est là où finalement le religieux touche directement à l'organisation à la fois de toute la société et aussi du régime politique. Donc passer d'une application intégrale de la charia qui nécessiterait, selon eux, un nouveau régime politique sous la forme du califat.
On voit bien qu'il y a une sorte de parallèle avec ce qui se passe en Syrie et en Irak avec l'organisation de l'État islamique. Est-ce que c'est de même nature, puisque l'organisation de l'État islamique veut aussi un califat sur sa zone?
Alors, la genèse de ces groupes est complètement différente. Le contexte, ce sont là des Africains noirs, canouris, essentiellement, qui se retrouvent dans la secte Boko Haram, et qui d'ailleurs vilipendent souvent aussi un peu le mépris des Arabes sur ces mauvais musulmans que seraient les Africains noirs. Donc vraiment, la genèse est tout à fait différente. En revanche, ce que l'on trouve comme similitude, c'est effectivement ça. Ce discours salafiste violent, radical, qui considère que pour appliquer correctement la charia, il faut changer le régime politique, et que pour cela, eh bien non, on ne participe pas à des élections, mais on va effectivement chercher à renverser le régime politique existant par la force.
Est-ce que Boko Haram est un mouvement qui est appelé à prendre de l'ampleur, et comment faire pour l'en empêcher?
Tout dépend de la réaction de l'État nigérian. Si effectivement la réaction c'est de continuer à violenter et agresser la population civile, alors effectivement Boko Haram peut continuer à prendre de l'ampleur. Si le gouvernement continue à être extrêmement corrompu, défaillant à la fois dans les services publics, dans son incapacité à protéger les populations civiles, que ce soit des écoliers ou d'autres, effectivement alors Boko Haram peut prendre de l'ampleur, et ça c'est un problème qui ne touche pas seulement le Nigeria, mais effectivement le nord du Cameroun où l'État est très peu développé, le Tchad et pourquoi pas aussi le Niger.
Merci Marc-Antoine Perros de Monclos.
Merci.
Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et que vous publiez ce mois-ci aux États-Unis un ouvrage sur la secte Boko Haram qui s'intitule tout simplement Boko Haram. Avant de se quitter, ce petit rappel à nos auditeurs pour les émissions des deux semaines à venir, consacrées non pas à une semaine mais à une année d'actualité. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué en 2014, une personnalité ou un événement. Écrivez-nous par courriel ou à la page Facebook d'une semaine d'actualité. À cette occasion, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic à ce micro. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine et bonne fête de fin d'année. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.